Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour.
Allez.
C'est pas facile aujourd'hui. Quand il est pas à la maison, Pascal Olivier, eh ben il a un petit peu des difficultés. Aujourd'hui, notre émission est une émission particulière, comme on en fait une toutes les trimestres à peu près. Nous nous invitons dans un restaurant. Et quel restaurant aujourd'hui, puisque nous sommes à l'hôtellerie du Vieux-Corde, le restaurant, l'hôtel-restaurant d'Yves Turiès, qui est avec nous ce soir, qui nous accueille. Merci de nous accueillir, Yves Turiès, bonjour.
Bonsoir.
Également, là autour de la table, Yannick Pouget, le chef de cuisine, bonjour.
Bonsoir.
Autour de la table, il y a également Aurélie Ballaran du domaine de l'Escosse, bonjour. Bonsoir. Merci d'être là. Domaine de l'Escosse, c'est du gaillac, hein, bien évidemment. On va en boire ce soir ?
On va en boire. Ah,
d'accord. Et puis également Martine Occhipinti, qui est rédactrice en chef du magazine Turiès.
Bonsoir. Bonjour.
L'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste ce soir, c'est bien sûr Pascal Olivier.
Oui, salut à tous.
C'était dur d'ouvrir cette bouteille-là ?
Elle n'était pas facile, mais elle est belle. Vendange dorée, ça ne se laisse pas violer comme ça au coin d'un bois. Il faut y aller.
Il faut y aller avec douceur et délicatesse. Christophe Bory, salut.
Bonsoir tout le monde.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Eh bien, on va parler d'un bouquin, La femme et l'ours. Et on va parler d'un CD mixé pour la boîte berlinoise, le Watergate.
D'accord. Fabien, salut.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va ?
Très très bien.
T'as trouvé facilement Corde sur ciel ?
Merci, on y reviendra plus tard.
Eu quelques difficultés à trouver.
Un peu, oui.
Mais écoute, le principal, c'est que tu sois là et que tu nous présentes aujourd'hui.
Un bon bouquin, guide de survie en territoire zombie.
Guide de survie en territoire zombie. Est-ce que les tarnés, les cordés doivent voir quelque chose un petit peu...
Vu la durée de mon trajet, oui.
Patrick Alfano, merci de rejoindre l'équipe ce soir.
Eh bien, avec plaisir.
Bah oui, on est un petit peu sur tes terres quand même. C'est bien naturel que tu viennes avec nous dans cette émission. Donc, pour toi, au programme, qu'est-ce que ça sera ?
Alors, moi, je vais vous parler de la sortie du dernier album de Jeff Zima, que vous entendez sur les ondes de CFM, Bluesman Americano Tarnais. Et puis, je vous parlerai de la finale midi-pyrénéenne du Printemps de Bourges, les groupes qu'on présentera au Printemps de Bourges.
Et ben voilà. Et puis, tout au long de cette heure et demie d'émission que nous allons passer ensemble, Yves Turiès nous racontera un petit peu son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui et avec la reconnaissance qu'il a partout à travers le monde, notamment au travers de son magazine, hein, Turiès Magazine. C'est pour ça que Martine Occhipinti est là également. Et pour ce qui est déjà dans nos assiettes, eh bien, heureusement qu'il y aura aussi Yannick Pouget qui nous fera quelques commentaires. Reste plus qu'à remplir les verres, peut-être avec justement le vin d'Aurélie Ballaran. Il y en aura ?
Oui, donc on commencera avec de la vigne de l'oubli, un vin blanc sec.
Eh ben voilà, c'est parti, c'est Qu'est-ce qu'on déguste depuis l'hôtellerie
Miam Miam. Corde.
Ok, eh ben, on ne remplit pas les verres.
C'est Pascal ?
Ah si, pardon. Ah ouais, non mais...
Ouais,
on n'est pas à la maison, on n'est pas à la maison.
On est pas au studio là quand même. When we found our first position and every muscle rested, I do remember that I already knew it was the last time for first positions, the last time you'd be mine. Oh. It's only what's good for you. Oh.
Les trois fromages, c'est une déclinaison sur... sur les fromages de chèvre de SARL, le pic qui se trouve à peine. Donc voilà, vous avez un fromage. Là, c'est donc une figuette qui a été en émulsion, faite en émulsion avec du basilic, petite tomate, huile d'olive. Ensuite, il y a un petit toast avec un pain grillé et figues et un cabecou. Et ensuite, on a une petite aumônière, là, fromage avec du miel. Voilà.
Très jolie l'aumônière.
Quelle belle voix, c'est celle d'Anne Brun, chanteuse norvégienne qui habite maintenant en Suède. Elle a une belle carrière derrière elle, mais moi je viens de la découvrir grâce à son dernier album qui s'appelle It Starts With One. Une voix merveilleuse, de belles mélodies, un album qui vient du froid et qui pourtant réchauffe nos cœurs.
Ben voilà, on a démarré à la vôtre, santé, c'est qu'est-ce qu'on déguste. On est, si vous prenez le train en marche, à l'hôtellerie du Vieux-Corde. Tout à fait, à l'autre bout de la table, là-bas, à la vôtre, monsieur Turiès. Yves Turiès.
Voilà, c'est de l'orange dorée que nous dégustons.
Non.
Hein, c'est pas ça, c'est...
Donc là, la on est en train de déguster la vigne de l'oubli.
La vigne de l'oubli.
Donc la vigne de l'oubli est un des premiers vins que mon père a fait sur une technique avec un élevage en barrique pendant un an. On récolte le raisin, on presse, on a le jus que l'on met en barrique pour faire une fermentation. Et on laisse le vin sur les lits de fermentation pendant un an en barrique. Et c'est un assemblage de Sauvignon, Mosaic et Muscadelle. Donc le Mosaic est un des cépages typiques de Gaillac.
De Gaillac, ouais.
Voilà.
On reviendra vers vous tout à l'heure, Aurélie Ballaran. Vous nous raconterez l'histoire de votre domaine. Yves Turiès, en 68... À l'heure où certains découvraient le sexe en groupe et la drogue, vous montiez votre première vraie affaire à vous, hein, en 68. Et vous écriviez votre première encyclopédie de recettes de cuisine d'un compagnon. C'est ça, hein ?
C'était quand même pas en 68. En 68, j'arrivais à Gaillac. C'est vrai que c'était ma première affaire. Mais... je ne commençais pas encore à écrire mon encyclopédie. Non, mon encyclopédie, je l'ai surtout commencé après, en 76, quand j'avais été cette année-là deux fois meilleur de France. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, ou plutôt même en 72, puisque en 72, j'avais été médaille d'argent des meilleurs de France. Donc, ce qui veut dire qu'on approche le titre à un point près, mais ouais. Je ne l'étais pas meilleur de France. Alors, j'étais quand même décidé, le prochain coup, comme le concours se passe tous les 4 ans, j'ai dit dans 4 ans, mais il n'y a pas de raison, il faut que tu sois. Bref. Et entre-temps, c'était une époque où il n'y avait encore pas de livres, même les livres qu'il y avait n'étaient pas illustrés, on arrivait aux premières photos. Et j'ai dit, tiens, tu vas faire un livre de pâtisserie au départ. Donc c'est pour ça que quand, après, en 1976, je passe mes concours et j'ai été meilleur de France, j'avais pratiquement le livre derrière qui était fait avec les photos. Et quelques mois après, j'ai pu sortir le livre qui était justement le premier livre encyclopédique en pâtisserie. Ouais. C'était le premier livre sur une cuisine actuelle avec photos. Parce qu'avant ça, on n'avait aucun livre qui était illustré.
Qui était illustré, quoi.
La photo n'illustrait pas encore.
Et alors, deux fois meilleur ouvrier de France. Alors, hier soir, je regardais, je crois que c'était sur la 3, il y avait... un reportage sur le concours de un des meilleurs ouvriers de France. Ouais. Effectivement, il y avait en pâtisserie, et c'est quand même plus que prestigieux, plus que costaud d'ailleurs. C'est un travail effarant. Alors, vous avez été un des meilleurs ouvriers de France en pâtisserie et aussi en traiteur. Ouais. Pourquoi avoir passé les deux comme ça
Mais pourquoi ? Parce que, effectivement, en 72, j'avais passé celui de pâtisserie. Et j'avais été médaille d'argent, donc ça me permettait de voir que celui-là, il était pour moi, il était un accès assez facile. Et voyant ça, j'ai fait aussi celui de glacier chocolat. Donc je suis pâtissier traiteur c'est le même concours. Et puis Chocolatier Glacier, c'est l'autre même concours.
Et ça, c'est la même année. Vous avez...
Et donc, cette année-là, en 76,
c'était pour vous.
J'ai préparé les deux concours et j'ai eu les deux concours, ce qui n'avait jamais été produit, bien sûr, jusqu'à là, et qui ne s'est pas reproduit depuis.
Non plus, vous êtes un double, ouais. Un des meilleurs ouvriers de France. Alors, c'est deux des meilleurs ouvriers de France que nous avons devant nous.
Oh, ben, je suis deux fois meilleur ouvrier de France, mais il y en a un autre qui est aussi en France. Mais qu'il a été en deux fois, à huit ans d'écart, quoi. Donc, on a eu une année, on en prépare un, l'année, huit ans après, il en a préparé un autre, il a été le deux fois.
Mais je crois que les candidats ne peuvent plus se présenter à deux disciplines la même année.
Je crois qu'effectivement,
je crois qu'après votre cas, d'ailleurs, ça a été décidé.
Enfin, on a bien eu.
Votre cas, entre les deux, vous avez tué le concours.
Non, c'est pas après moi, c'est depuis le dernier, depuis quatre ans, qu'effectivement, il est reconnu que, enfin, d'ailleurs, c'était impossible, puisque pendant plus de 20 ans après moi,
Et le compagnonnage est arrivé avant.
Alors c'était avant. Justement, j'aimerais qu'on parle de cette période parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui a fait le Tour de France, des compagnons du Tour de France. Est-ce que c'est pas d'ailleurs aujourd'hui quelque chose qui se perd
ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Le compagnonnage change. Bien sûr qu'il y a eu l'époque des compagnons tailleurs de pierre. C'était le 12e, 13e siècle. Il y a eu l'époque des compagnons charpentiers, 15e, 16e, etc. Bon, mais actuellement, il faut savoir que depuis au moins 50 ans, on vit l'époque des compagnons des métiers de bouche. Tous les métiers de bouche sont actuellement dans nos Cayennes. Montauban, il y a une Cayenne importante des compagnons.
Il y avait une fête la semaine
dernière. Il y a 15 jours, bien sûr.
Avec une réception.
Et bien là, nous avons, et dans nos métiers, actuellement, ce sont les métiers de bouche qui ont le plus de... Pourquoi ? Parce que justement, il y a l'intérêt de travailler dans plusieurs maisons pour apprendre vraiment ce métier et pour se faire sa formation. Après, quand le candidat a travaillé dans plusieurs maisons, chacune ayant son style, et il peut au moins se...
Combien on fait de maisons ? En combien de temps on fait son Tour de France ? Comment ça marche ? Et combien on fait de maisons ? Ouais.
Bon, ça c'est, on dit, il y a le Tour de France et le chef-d'œuvre après. Donc, il y en a, la durée importe peu pour certains, c'est au moins 3-4 ans. Hein.
Ouais, très bon pâtissier, la durée.
Comment ?
Très bon pâtissier, la durée.
Bien sûr. Oui, moi par exemple, je suis parti à 14 ans de mon village, hein, et ça a duré, certes j'ai été compagnon avant, mais j'ai tourné pendant jusqu'à 28 ou 29 ans quand j'ai pris ma première affaire. Donc pendant 14 ou 15 ans, j'ai tourné pendant 14 ou 15 ans en tant qu'employé d'une maison à l'autre. Quoi,
voilà. D'accord. À l'époque, après, on le faisait à pied, on partait.
Il y a déjà quelques années, bien sûr.
J'en ai rencontré un jour, justement, à Montauban, qui le faisait à pied en
bien
costume.
Sûr. Non, mais là, c'est symboliquement, oui, ouais. Bien sûr, on a la canne et on peut le faire. Mais vous savez, maintenant, un compagnon, il peut travailler à Marseille, puis il peut aller travailler à Strasbourg, il peut revenir travailler à Toulouse.
Et il prend le train ou l'avion.
Il prend le train, l'avion. Moi, je l'ai fait en grande partie à moto.
Et vous l'avez choisi ou vous êtes tombé dedans par hasard dans cette histoire de compagnonnage?
Non, moi je l'ai choisi et je suis tombé dedans. Dans mon village, beaucoup justement, il y en avait pas mal, il y avait beaucoup de compagnons, menuisiers, charpentiers. Et comme j'étais intéressé moi par les métiers, par le manuel, ils me disaient tous, il y avait un charron à côté de chez moi ou un menuisier en face qui était un compagnon justement. Et ils me disaient, ben tu sais, si ça t'intéresse petit d'apprendre un métier, il faut que tu le fasses chez les compagnons. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître les compagnons, de savoir à quelle porte il fallait que je tape, alors que on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui auraient pu le faire, et ne sachant pas ça, on fait un apprentissage normal. Et moi, j'ai eu la chance de le faire, donc, chez les compagnons. C'est une chance pour moi, et effectivement, c'est le compagnonnage qui m'a tout apporté au départ. Si j'ai été par la suite meilleur ouvrier de France, deux fois, c'est avant tout parce que j'étais compagnon, quoi, je crois.
Et j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un des meilleurs ouvriers de France, et qui est devenu compagnon par la suite.
Oui, bien sûr.
Parce que, m'a-t-il expliqué, ouais. il cherchait dans le compagnonnage une tradition, ouais, et une ouverture d'esprit qu'il ne trouvait pas chez les meilleurs ouvriers de France.
Ouais, oui, c'est tout à fait différent. Et là, je dirais que...
Il y a une relation entre vous, après, vous vous côtoyez, un peu comme, je sais pas, les...
Ou chez les compagnons ?
Ouais.
Oh, ben, on se rencontre, bien sûr. Les compagnons, d'abord, nos fêtes, comme on l'avait il y a quelques jours à Montauban, il y en a un petit peu partout, on les fait. On peut les suivre, plus ou moins. Moi, je les ai, à une certaine époque, je les suivais beaucoup plus que maintenant, par exemple.
C'est une corporation importante.
Mais chez les compagnons, oui, ça c'est important. Mais enfin, ça reste quand même, c'est assez sélectif, les compagnons.
Oui,
pas dire, il y en a pas. Mais enfin, il y en a toujours, le nombre est toujours à peu près le même depuis des siècles, par exemple, oui. Puisque c'est la plus ancienne des sociétés de tradition. Le
compagnon. Quel est votre nom de compagnon?
Tarné l'Indugent.
Pardon?
Tarné l'Indugent.
Bravo, buvons!
Buvons à Tarné l'Indulgent! Alors, cette entrée était absolument succulente et je pense.
Une mise en bouche, correction.
Pardon.
Le chef, il a dit, c'est pas une entrée. Ah, c'est pas
l'entrée. D'accord. Donc dites-le dans le micro, vous n'ayez pas peur de me remettre
ça, à ça. Ça a pour but de nous exciter les papilles.
Tout à fait.
Nous...
C'est gagné.
Tout à fait.
Pas mal.
Christophe. Non, c'est, ça c'est pour plus tard. Une chronique disque, si tu veux bien.
Ok, on va aller à Berlin alors. Avec Tief Schwarz, excusez-moi. Je ne sais pas trop parler allemand. Les rois du son minimal house, deux frères berlinois qui ont leur propre label qui s'appelle Souvenir Records. Ils viennent de sortir un CD mixé. C'est sorti cette semaine. C'est pour une série réalisée par un des meilleurs clubs de Berlin qui s'appelle le Watergate. Un endroit superbe avec une vue imprenable sur la Spree. On prononce ça comme ça, la rivière qui traverse
la Spree.
Ah voilà. Spree. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Une déco à tomber, un sound system qui est reconnu comme un des meilleurs dans le monde. Ce Watergate fait envie à tous les DJ dans le monde entier. Et les deux frères à Schwarz donc sortent et mixent régulièrement dans ce lieu mythique et cette compile reflète complètement leur programmation à base de classiques house, de remix et de nouveautés, notamment leur dernier single qu'on va écouter tout de suite, un petit extrait de ce superbe CD mixé. Hey. Donc du groupe Tief Schwarz qui mixe cette compile, la dernière date du label Watergate.
Oui, on a a dit qu'on ne parlait pas pendant les, pendant les jingles, Pascal Olivier.
Vous êtes sorti, c'est un cri du cœur.
Vous écoutez Qu'est-ce qu'on déguste ? On a le plaisir aujourd'hui d'être à la table d'Yves Turiès, à l'hôtellerie des, du Vieux Corde, en compagnie d'Yves Turiès, de Yannick Pouget, de Martine Occhipenti, rédactrice en chef de Turiès Magazine. On vous donnera la parole tout à l'heure, Martine, et d'Aurélie Barallan du domaine d'Escos, qui est ce très bon blanc qu'on est en train de boire, et j'ai l'impression que c'est pas fini, et ça tombe plutôt bien. On a abordé un petit peu votre entrée en matière, Yves Turiès, et aujourd'hui, vous êtes à la tête de nombreux restaurants, de nombreux hôtels, de nombreux magasins de pâtisserie, de chocolaterie, et d'un magazine qui s'appelle Turiès Magazine, qui est plutôt à destination d'ailleurs des professionnels, dans lequel vous mettez en avant les professionnels, les cuisiniers, les pâtissiers. C'est, toute votre vie tourne autour de ça, quoi.
Oh, bien sûr que j'ai bâti toute ma vie autour de la gastronomie, des métiers de bouche, c'est vrai. Et le magazine, d'ailleurs, sa ligne éditoriale, c'est les recettes et les hommes. Donc nous ne parlons que des recettes. On ne donne que des recettes et des hommes qui les font. Voilà, c'est la ligne éditoriale de notre magazine, et ce depuis 28 ans maintenant. C'est un magazine qui a toujours mais qui marche toujours très bien, malgré parfois les difficultés que rencontre la presse, et certes elle la rencontre en ce moment aussi, on ne peut pas dire. Mais nous, mais il faut bien dire aussi que c'est un magazine professionnel et qui s'adresse essentiellement aux professionnels, mais on s'aperçoit maintenant qu'on a 20-25% à peu près de nos lecteurs qui
sont même plus,
Martine.
Amateurs éclairés.
Alors, voilà. Mais voilà, petite présentation, s'il vous plaît. Ouais. C'est un très beau magazine qui est très épais, beaucoup de couleurs. Vous parliez de photographie tout à l'heure dans votre premier recueil de recettes, dans votre encyclopédie que vous avez fait déjà dans les années 70. Et là, c'est en droite lignée, quoi. Vous avez des photographes qui bossent là-dedans
avec un certain talent. Il y a un photographe, bien sûr, attitré, qui est Pascal.
Ouais. Pascal Latt, qui est le photographe du magazine et qui nous fait ces superbes photos.
Ah oui,
on a envie de suite de dévorer
quoi, là, chaque page. Hein.
Le magazine se trouve où ?
Dans tous les kiosques d'abord, Martine.
Se trouve où ? Oui, dans les kiosques et par abonnement, dans tous les kiosques sur le sol français. Et nous avons beaucoup d'abonnés à l'étranger et dans le monde entier, au Japon, en Australie, au Mexique, partout.
D'accord, mais donc pour les particuliers en France qui voudraient jeter un œil, ils peuvent aller
dans les kiosques.
À la différence de pas mal de magazines professionnels qu'on ne trouve par
abonnement.
Je pense au Journal des pâtissiers, je crois, qui est
tout à fait
voisin de Turiès Magazine.
Le magazine Le Chef aussi, qui est dans notre notre ligne éditoriale.
Mais ça, on ne le trouve que sur abonnement. C'est le Journal des pâtissiers, on ne le trouve pas dans les
numéros 236.
Je ne sais pas actuellement combien on est de pays étrangers, mais je sais qu'à une époque, on avait compté. On envoyait dans 104 pays étrangers.
Et en Australie, partout. Beaucoup au Japon, en Russie. En fait, il y a dans le monde entier des chefs français, pâtissiers ou cuisiniers. Et entre les chefs qui sont à l'étranger, le magazine est vraiment le lien avec la France. Voilà. C'est à travers notre magazine qu'ils découvrent des nouvelles tendances. Parce que nous avons beaucoup de recettes, mais nous avons aussi des rubriques qui évoquent beaucoup le parcours, la personnalité du chef. Hein. Nos interviews ne se basent pas uniquement sur le travail.
Sur la partie gastronomie.
On s'attache
sur l'homme.
Voilà, on s'attache à dévoiler un petit peu, avec pudeur bien sûr, mais aussi des fois avec un petit peu d'insolence, la personnalité du chef. Et des fois, il y a des chefs qui se prêtent au jeu et c'est magnifique.
Yves Turiès, vous signez l'éditorial du Turiès Magazine de décembre. C'est titré « L'heure de la rigueur ». Vous parlez de la crise et de cette TVA à 5,5 qui va remonter à 9 peut-être.
Bien sûr, l'éditorial est bien sûr quelque chose qui n'est pas de la recette, donc on est obligé de parler d'autre chose. Et bien sûr, ce qui était l'actualité, pour nous, c'est une hausse de TVA qui, enfin, c'est pas dangereux, elle est passée de 5,5 à 7%. Enfin, elle méritait quand même que...
Ah, c'était 7, je croyais que c'était 9, pardon. Je croyais que c'était
7. 7, et ça a été confirmé
bien
ce
sûr,
matin.
Elle était de 5,5 à 7, oui.
D'accord. D'accord.
Donc, bien sûr, elle a mérité quand même que j'en dise quelques lignes, mais bon, ça n'a pas été, c'était pas méchant. Hein.
Aujourd'hui, Yves Turiès, à l'heure actuelle, vous avez quoi comme hôtel, quoi comme restaurant? Ici, on est à l'hôtellerie du Vieux Corde.
Ben, j'ai le Grand Écuyer, mais qui est fermé maintenant.
Ah, il est fermé, le Grand Écuyer. Voilà.
Et c'est tout. L'hôtel de la Cité, qui est un petit peu plus loin. Autrement dit, il y a trois hôtels dans le haut de... Dans le Haut-de-Corde, bien sûr que j'ai tous les trois, mais en ce moment, c'est quand même la période de fermeture pour certains, sinon celui-là. Après, qu'est-ce que, à Corde, j'ai le musée de l'art du sucre. Le musée de l'art du sucre, il y a le Turiès Magazine, qui est, dont les locaux sont juste au-dessus du musée de l'art du sucre. Il y a la société Editar, qui est une société d'édition, qui diffuse, en fait, surtout mes livres. Voilà, c'est tout.
Et chocolat, bon, à Montauban, il y a, il y a non, mais chocolaterie Turiès,
voilà, mais
qu'est-ce
ça,
que c'est?
Bon, on a les bureaux, la comptabilité qui est ici, mais j'ai la chocolaterie qui est à Marsac, à côté d'Albi, sur l'autoroute entre Toulouse et Albi, c'est la dernière sortie à Marsac. Et là, la chocolaterie qui approvisionne les boutiques, puisqu'on a plus de 60-70 boutiques en France.
D'accord. Et à l'étranger ou pas?
Et
à l'étranger?
À l'étranger, il y en a trois au Japon, il y en a une au Canada, il y en a une enfin, aux États-Unis aussi. Voilà, il y en a à l'étranger, mais en fait,
il n'a pas l'air comme ça.
Rien que ça. Non, mais rien que ça.
Non, parce que non, c'est ça, comme je ça, vous dirais que ça bouge toujours et je dis des chiffres, mais c'est à peu près. Demain, par exemple.
C'est quoi?
Demain, je suis à Sainte, en Vendée, et là, je vais inaugurer une autre boutique. Donc, vous voyez, ça bouge toujours. On peut dire un chiffre aujourd'hui qui variera demain, quoi.
Tarné l'indulgent, c'est ça?
Tarné l'indulgent.
Tarné l'indulgent.
Ah, Tarné l'indulgent, monsieur dame. Allez. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite, c'est après ça. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, pour ceux qui prendraient le train en marche, nous sommes à l'hôtellerie du Vieux Corde.
À
Corde sur ciel, oui, parce que je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, il m'arrive de dire des bêtises à l'antenne. Et alors, ceux qui écoutent régulièrement nos émissions savent que de temps en temps, je dis à l'hôtellerie du Vieux Corde à Saint-Antonin. Mais pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je veux mettre votre hôtel-restaurant. Peut-être parce que Saint-Antonin, comme Corde sur ciel, sont de très beaux endroits où il fait tellement bon vivre, tout simplement. Nous sommes accueillis sur cette très belle table par Yves Turiès et son chef Yannick Pouget. Avec nous également, il y a Aurélie Ballaran du domaine d'Escos et Martine Occhipinti, rédac-chef de Turiès Magazine. L'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste ce soir, c'est Pascal Olivier.
Il ne dit plus rien.
Christophe Bory.
Nous dégustons.
Fabien Martinet.
Coucou tout le monde.
Et pour l'occasion, parce qu'on est sur ces terres, après tout, le coordinateur d'antenne de CFM Corde, Patrick Alphenos.
Moitié, je mange.
Bon. Eh bien.
On pourrait se faire présenter l'entrée qu'on a dans les assiettes.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que ça me.
Parce que comme ça, après, on va pouvoir attaquer.
Ça me fait saliver. Vous verrez toutes les photos sur le site qu'est-ce-qu'on-déguste.com et sur cfmradio.fr. Alors, Yannick Pouget, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que toutes ces.
Alors là, vous avez donc un foie gras poché mi-cuit au vin rouge et aux épices. Vous avez une purée de poire pochée aussi dans le vin rouge. Et en accompagnement, vous avez le vin chaud qui a cuit tous ces éléments. Voilà, donc c'est une entrée d'hiver.
Avec c'est ce qu'on disait, effectivement, quand les plats sont arrivés, on aurait dit un marché de Noël à l'odeur.
Ah, là, vous avez toute
la cannelle, c'était, voilà, on en parlait, le marché de Noël vers 6h quand on rentre.
Ouais. Super, non, plus.
Ça, c'est bon. Là, pour manger, vous pouvez mélanger le foie gras avec la purée de poire.
Le chaud, le froid, l'acide, le sucré, voilà. on se balade.
Voilà.
Et
là, vous avez tout.
Voilà, on essaye d'avoir des sensations gustatives qui pétillent.
Eh bien, vous savez quoi ?
N'oubliez pas le vin chaud.
Il est terrible.
Il est délicieux. Ouais. Un régal.
Qu'est-ce qu'on déguste ? On attaque avec Jeff Zima. On attaque donc l'entrée, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça.
Il ne faudrait pas qu'on prenne pension ici. Parce que qu'est-ce qu'on dit ? La barre est haute.
Là, c'est bien l'entrée. Ouais.
Allez, j'attaque.
Depuis le début,
know my name. And I'm here to tell you people that can't nobody touch my plan. There's a change in the weather, change in that deep blue sea, change in the ocean, baby.
Il a, c'est un vin chaud qui a le goût du foie gras. Quoi. Il faudrait que le vin chaud à chaque fois qu'on boit, il ait tout le temps le goût du foie gras. Bon, il ferait pas des affaires. Tu sais, les mecs qui te les vendent sur les marchés des villages. Là.
See me living this away.
Et ce que vous venez d'entendre, c'est le dernier album de Jeff Zima. Il me l'a donné il y a quoi, une demi-heure, à tout casser.
Le plus tarné des Américains.
Le plus tarné des Américains. Ou alors le plus américain des tarnés, je ne sais pas. L'Americano tarné que vous retrouvez d'ailleurs sur CFM, hein, je le rappelle, tous les vendredis soirs, tous les dimanches soirs, pardon, c'est à 19h.
Le bruit des autres.
Il s'appelle Le bruit des autres. C'est un live hein, à la Javanaise, une salle de concert qui ouvre surtout l'été ici sur le Tarn. Et puis voilà, je voulais simplement dire qu'il y a Jeff Zima à la guitare, au chant, Fred Jouglas à la contrebasse, Didier Brassac à la batterie et Jersey Julie au saxophone alto. Un double album, le premier live à la Javanaise et le second Racked But Right en studio.
Yves Thuriez, si vous voulez quelques instants, je vous abandonne un peu pour m'intéresser à votre chef. Parce que ça fait 9 ans quand même qu'il est dans votre cuisine. Il n'a pas été chef tout le temps. Il m'a dit tout à l'heure que ça fait 3 ans qu'il est chef. Et donc il a gravi aussi les échelons au sein de l'hôtellerie du Vieux-Corde. Qu'est-ce que c'est votre parcours à vous, Yannick Pouget, au départ?
Alors au départ...
Non, bien dans le micro.
Moi je viens de Nîmes déjà. Donc j'ai fait l'école hôtelière à Nîmes, BEP Bac Pro. Et ensuite j'ai fait comment on appelle ça, des stages ici,
ouais,
au Vieux-Corde.
Ah d'accord, voilà. Les premiers stages c'était...
J'ai fait un stage ici en fait.
D'accord.
Donc ça m'avait plu à l'époque.
C'était ensuite, quand ça déjà
ça
commence à durer.
Ça va faire 11 ans, ouais. Voire 11 ou 12 ans.
La maison vous a plu, vous êtes resté ou quoi?
Pas tout de suite. Non, j'ai travaillé après au Bordeaux-Provence. J'ai fait des saisons de macarons là, chez Beaumanière.
Chez Beaumanière,
voilà.
Qui était célèbre pour... Il faisait quoi? Ça, c'était un gigot en croûte ou un truc comme ça. Il y avait, chez Beaumanière, il faisait
voilà,
un truc comme
avec,
ça.
Fait, là-bas, c'est les huiles d'olive. Là, il fait la Provence, quoi. C'est, voilà, donc j'ai travaillé... j'ai fait ces deux restos, enfin, restaurants aussi de Beaumanière. Il y a la Cabre d'Or et Beaumanière, en fait. Hein. Donc j'ai travaillé là. Ensuite sur Nîmes, bon, dans des petits restaurants, voilà, sur Nîmes.
On a besoin de changer, de passer d'une grande maison à une petite.
Oui,
bon,
comme ça on voit de tout. Enfin, voilà, on apprend. Même
besoin de retomber dans les basiques, dans la vaisselle, dans le truc, dans le problème quotidien, parce que dans une 2 étoiles ou 3 étoiles, on a.
Ah oui, là c'est bon, rigueur.
C'est autre chose.
Oui, c'est pas la même
ambiance. On a besoin de revenir comme ça dans les trucs de base.
Ah oui, oui. Pour apprendre, pour se rappeler des fondamentaux, des bases.
Vous l'avez pas fait super longtemps, parce que si votre premier stage à l'hôtellerie du Vieux-Corde, c'était il y a 11 ans, et vous êtes déjà ici depuis 9 ans, Vous avez fait 2 ans de balade à droite à gauche avant de revenir finalement dans un endroit qui vous a accroché.
Le chef qui était là donc m'a rappelé pour venir travailler. Voilà.
Ouais.
Donc moi après je suis venu ici. J'ai fait encore une saison ici. Donc 8 ans après, ouais, ça va faire 8 ans.
D'accord.
Vraiment en CDI.
Et qu'est-ce qui alors parce que c'est.
Il faut dire aussi qu'il a trouvé sa femme.
Ah, ici aussi.
Ah, mais c'est pas tout.
C'est pas qu'une histoire d'homme alors.
Et au vieux corde en plus, oui.
D'accord. Et en plus,
au vieux corde, oui.
Parce que c'est vrai que quand on travaille dans une cuisine, dans un établissement comme ça, c'est une sorte de cooptation. Il faut que ça plaise au chef. Il faut que le chef plaise au reste de l'équipe, au patron, à tout le monde, quoi. Voilà. Donc c'est aussi une alchimie, quoi.
Hein, tout à fait, oui.
Une adoption.
Comment ça se passe quand on est chef avec un propriétaire qui est aussi
monsieur le propriétaire.
Non mais qui est aussi dans le milieu de la bouche, qui est voilà, enfin c'est je sais pas, pour le choix des plats, pour le
ouais,
dessert,
là il nous laisse le
c'est
libre
quoi, justement ouais, c'est quoi
libre choix quoi. Voilà.
C'est quoi la pâturièse dans la cuisine?
Bon, moi je suis un pâtissier. Hein, je suis un pâtissier cuisinier. Certes, le grand écuyer, pendant 28 ans, étoilé, c'était puisque c'est le restaurant le plus ancien étoilé depuis des Pyrénées d'ailleurs. Hein. Mais je suis, il faut savoir, moi je suis d'abord un sucré, je suis un pâtissier qui est fait de la cuisine après.
Mais ce qu'on mange là, c'est très sucré.
Pas sucré. Non, mais je veux dire, je trouve qu'il est facile, quand on est pâtissier, de devenir cuisinier. Beaucoup, on peut en citer des exemples. Guérard, Carême et bien d'autres étaient des pâtissiers, sont devenus des cuisiniers. Mais il est très rare de faire l'inverse, de partir cuisinier et de devenir un jour un grand cuisinier, de devenir un grand pâtissier. Ça, c'est quand même difficile.
Ça veut dire que c'est donc, la pâtisserie,
pâte à moi,
c'est plus dur.
Comment ?
Ça veut dire que la pâtisserie, c'est plus dur.
La pâtisserie est une science exacte, on ne peut pas se tromper.
On pèse tout au gramme près.
On pèse tout au gramme près, puis on vous donne de la farine, des œufs, du sucre, etc. Il faut faire un gâteau.
Du beurre.
Alors que, après tout, si vous avez une viande de bistec, il n'y a qu'à la cuire, il n'y a pas tellement de transformation à faire. Il y a les sauces, après les préparations, mais c'est autre chose, c'est tout à fait différent. La cuisine est beaucoup plus...
Et alors Yannick Pouget, vous avez gravi les échelons ici, c'est ça?
Vous
êtes entré par la petite porte, puis petit à petit.
Voilà.
C'est une belle aventure. C'est...
Ah oui, ouais. Surtout ici. Bon,
dites-le bien dans le micro, parce que
on est... Le vieux corps, c'est vrai que c'est quand même, on va dire, une famille. Quoi. C'est tout, fait, le personnel, Monsieur Thuriez, tout ça, c'est vraiment. C'est chaleureux, enfin voilà, on est.
C'est une équipe de combien ici?
Alors là,
tout compris, hôtel,
compris,
resto,
ouais.
Tout.
23.
Voilà. Enfin, monsieur le directeur qui est derrière, voilà, qui est
23. Un chef qui reste dans une maison une dizaine d'années, comme lui, et qui d'ailleurs, j'espère qu'il n'a pas l'intention de partir. Ça veut dire que. Ça, et d'un, ça veut dire qu'il s'y plaît, et ensuite, ça veut dire aussi qu'il convient. Autrement.
Bien sûr.
Ça ne reste, hélas, parfois, un chef n'arrive pas à faire sa place ou il n'arrive pas à faire la paire dans la maison. Mais dans ce cas-là, il est clair que...
Il s'en va.
Eh bien, à la santé de Yannick Pouget, s'il vous plaît. Aurélie Ballaran, s'il vous plaît, du domaine d'Escos. Qu'est-ce que c'est que la vigne blanche que nous sommes en train de boire?
Donc, contrairement à son nom l'indique, la vigne blanche est un vin rouge.
Ouais.
Donc, le nom de cette cuvée vient de la parcelle majoritaire qu'on utilise pour cette cuvée. Le lieu dit s'appelle la vigne blanche. Donc, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est sur un terroir où c'est surtout des rouges qui sont plantés. Et à l'époque, c'était tellement rare d'avoir une parcelle de raisins blancs qu'on l'appelait de suite la vigne blanche. Et non content d'avoir des raisins blancs, on est sur une terre très calcaire, une terre blanche. Donc, une vigne avec un sol blanc, une vigne blanche.
Et ça donne quoi comme typicité à votre vin, ça, le fait que ce soit calcaire comme ça? On retrouve le minéral dans le...
On retrouve le minéral, on retrouve le côté, une profondeur. Un côté comment vous dites, vraiment un caractère, une personnalité qui reflète le terroir, le paysage qu'on a autour de chez nous. C'est un vin qui se distingue des autres terroirs que l'on peut trouver sur le Gaillacois.
Il n'a pas un nez de Gaillac.
Et pourtant, c'est,
oui,
c'est,
oui, mais...
c'est, on est sur, des, on est sur du fruit rouge, des épices. On a le fruit rouge qui vient de la Syrah et du brocol quand, ils sont bien, quand le brocol est mûr, le côté cassis. Et après, on a le côté épicé qui vient du Duras qu'on utilise pour cet assemblage. Et c'est un vin en bouche qui a de la matière, qui a de la structure.
Et alors, et alors, vous avez choisi de nous le servir sur un foie gras. Moi, depuis 3 ans maintenant, ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Je n'ai pas bu un vin rouge sur un foie gras depuis une éternité. Parce que voilà, la mode maintenant, c'est de boire plutôt un vin blanc, si possible liquoreux, parfois même une espèce de sirop sur le foie gras. Alors pourquoi un vin rouge, un gaillac rouge comme ça sur le foie gras ?
Le foie gras est un mets avec du gras. Et le gras crée des liaisons avec le vin qui donne une saveur, une texture en bouche. On a un toucher. Ces liaisons entre le plat et le vin, ça nous permet d'avoir un toucher en bouche que l'on n'a pas avec un autre vin.
Ah, Aurélie Ballard.
Toucher en bouche.
Toucher en bouche. Mais c'est vrai qu'on en parlait, tu sais, même la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus dans quelle émission, avec Christian Guérin, des Côtes de Brulois.
Voilà.
Qui nous disait que pour apprécier aussi le vin noir du Brulois, il fallait des plats avec du gras dedans pour que ça fonctionne, pour que d'un coup l'alchimie se fasse dans la bouche.
Et là, ça marche particulièrement bien.
Là, ça marche particulièrement bien, effectivement. Je ne sais plus où on en est. Une réflexion intéressante à ma gauche.
Je disais que le gras est un conducteur de saveur, dans tous les cas.
Pascal, t'as toutes tes chances.
Pour ce soir. Alors, bien sûr, tous les produits que nous avons dans l'assiette... ce sont des produits qui viennent d'ailleurs. Le foie gras vient de Chine. La roquette, elle vient de Japon. La clémentine, elle vient pas de... Elle vient pas de Corde.
Corse.
Elle vient de Corse. Et la truffe ?
Et la truffe vient de Vence. Dans le 06.
Dans le 06.
Voilà.
Alors, on est... c'est une philosophie de la maison aussi d'avoir du produit local.
Bien sûr. On essaie. Toujours avec du produit local, oui. C'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, j'ai eu des problèmes en juin avec...
Ah bon ?
Parlons de cet épisode qui vous a mis fort en colère, Yves Turiev.
C'était l'année dernière au mois de juin. Effectivement, on faisait au Grand Écuyer une poitrine de veau farcie étruffée. Mais comme on travaillait avec des truffes fraîches, on prenait des truffes fraîches du mois de juin. C'était des estivums. Bien sûr, des truffes d'été, mais qui étaient très bonnes. Et puis, vous savez, si elles ont peut-être un petit peu moins de goût, ce qui est vrai aussi, et bien on en râpe un petit peu plus dessus, ce qui le permet. Et voilà, donc on faisait notre poitrine de veau comme ça. Et puis j'ai eu un contrôle qui...
Qui est venu contrôler
Le service des fraudes, là, DG...
C'est CRF.
Voilà, c'est très bien. Et donc, bien sûr, n'ayant rien trouvé, d'ailleurs, après, ils ont tout contrôlé, tout allait bien. Le service est reparti, tout allait bien. Et puis après, ils sont partis avec une carte. Et voyant sur la carte ces truffes, ils nous ont demandé aussitôt quelles truffes on utilisait. Et on a dit, voilà, on a montré le plateau de truffes qui étaient les truffes fraîches, les truffes. Ah, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, truffer avec des truffes.
On ne peut pas marquer. Ce qui vous reprochait, c'est d'avoir marqué dans votre carte.
Truffé. Oui.
Alors qu'il y avait bien de la truffe.
Mais c'était
de la truffe d'été. De truffe blanche et non pas de la ménalos pour hommes.
Vous savez.
C'est ça, hein.
Mais bien sûr. Et alors je me suis
retrouvé. C'est pas la ménalos pour hommes, on est bien d'accord.
Non, c'est pas. Non, bien sûr. C'est de l'estivum. Et je me suis trouvé, enfin bref, je veux bien abréger la situation, mais je me suis trouvé en 15 jours en correctionnel, quelques mois après. Je pensais que l'affaire d'ailleurs était tombée, non, et puis je me suis retrouvé en correctionnel pour cette affaire-là, pour avoir tout fait. Et je signale, parce que c'est quand même une vérité, je suis le premier chef en France, et certainement au monde, à avoir été pour une cause comme ça. Alors voilà, je me suis retrouvé en correctionnel, alors effectivement, en correctionnel, et sans m'en content de ça, quand j'étais en correctionnel, fortement j'étais humilié.
Ça, je me rappelle, à l'époque, vous étiez très énervé. On vous avait interviewé sur CFM Radio. Je me rappelle d'une interview où vous étiez remonté.
Si ça avait été, moi je savais que truffé, c'est mettre de la truffe. Si vous salez, on ne vous demande pas de saler avec du sel de Guérande. Si vous mangez un poulet rôti, vous mangez un poulet rôti. On ne vous dit pas si c'est un poulet de Bresse et un poulet de batterie. Et vous mangez un poulet, et il y a entre un poulet de batterie et un bon poulet de Bresse, la belle, ceci ou cela.
Il y a 50 euros de différence.
Vous avez 10 d'écart, 5, 6, 10 d'écart. Vous comprenez? Alors que moi, c'était pas le cas, même si elle était moins chère. Donc, je veux dire, c'était une stupidité, voilà.
Je t'avais dit de pas lui parler de ça. Il est chaud, là, encore. Il est chaud, bouillant.
Mais bien sûr,
ce qui est assez curieux, en fait, c'est que cet inspecteur des fraudes aurait préféré, finalement, qu'on utilise une truffe pas fraîche, qui a été en boîte.
Pas de saison.
Carrément congelée, je dirais.
Ou valait mieux alors que j'en mette pas du tout. Je pouvais faire ma poitrine de veau farci sans la truffer, voilà.
Sans le dire.
juste pour qu'on essaye bien d'imaginer. Vous avez en tête le prix du plat et je sais pas.
Non, ça change rien au prix.
Non, mais voilà, mais
je l'aurais truffé ou pas truffé, le prix du plat était le même.
Ouais, voilà.
C'est pas le client qui était truffé dans l'histoire. C'était pas le client qui était truffé dans l'histoire.
Non, enfin voilà, une stupidité, mais qui m'a vexé. Mais heureusement que je peux dire que j'ai eu la profession qui a été derrière moi. Des mails de partout, le monde entier. Bien sûr, j'ai des amis qui ont fait passer ça sur le web. Et puis, on s'est retrouvés avec, alors, venant de partout.
Mais je me rappelle, ça vous a gonflé parce que vous avez dit, moi, je suis du Tarn, je suis d'ici, j'ai fait des choses pour mon pays, pour mon département, pour l'endroit où je vis. Et à l'âge que j'ai pas l'impression d'être remercié par ce fait.
Je demande pas d'être remercié, mais me retrouver en correctionnel. Et à mon
être
âge,
pris, après, être pris pour un vulgaire escroc.
Être pris pour ça. Et à côté de moi, attendez, du peu. Avant moi, la semaine avant, dans ce même tribunal, on jugeait un gars qui avait tué sa femme. Bon, je veux bien,
Personne.
Pas dire, non, c'est même pas mon gré. Bien sûr que j'avais un chef aussi. Mais en fait, c'était quand même. On était totalement dans le ridicule. Alors j'ai eu plaisir à le dire, à le faire savoir et à le publier. Et je le redis encore, faut pas me toucher là-dessus parce qu'effectivement.
Il est chaud.
De la braise. Ils auraient pu être plus indulgents.
Oui.
Tarné l'indulgent.
Tarné l'indulgent.
Alors, on peut trinquer. Tu trinques avec moi, toi.
C'est la première fois qu'est-ce qu'on déguste, il y a de l'eau sur la table. Alors ça
c'est une bonne idée quand même. Hein,
de l'eau gazeuse et de l'eau
fraîche.
Si, la personne qui a amené le vin a bu de l'eau.
Elle a fait
de
l'eau. Balance, moi. Non mais c'est vrai que les cuistots sont les cuisiniers sont un petit peu mal aimés, mal reconnus. Je lisais aujourd'hui par exemple Michel Saran, 2 étoiles à Toulouse, il fait un petit coup d'éclat parce que il quitte le comité régional de tourisme où il était un conseiller technique pour la partie gastronomie. Et puis il dit, moi, vous m'emmerdez, enfin vous me faites chier, vous faites rien pour les restos de Toulouse, on nous fout des bâtons dans les roues tout le temps. Et il a claqué la porte du comité régional de tourisme. C'est Michel Saran quand même, quelqu'un d'important.
Je crois que de la reconnaissance, il faut pas en attendre. Mais quand même, je peux vous dire, dans beaucoup de pays, les restaurateurs, on contribue tout naturellement à élever la région. Ça mérite un peu, je crois, de considération. Et effectivement, quand on voit ces gens-là, aucune reconnaissance, ça vaut la peine de quoi? Parce qu'il est tellement plus facile de se laisser aller, de mener un métier tranquillote. Mais enfin, quand on veut pendant 30 ans tenir un restaurant étoilé, eh bien, je vois, c'est tous les jours qu'il faut être du matin au soir, il faut le suivre, il faut y être.
Avouez, Yves Turiès, que finalement, cet imbroglio est arrivé à un moment où ça vous étiez un petit peu fatigué aussi de ça, vous en aviez un peu marre, et finalement, vous avez dit, basta, quoi.
Vous avez peut-être raison aussi.
D'accord. 3 minutes, peut-être pour parler un petit peu des découvertes du printemps de Bourges, si tu veux bien, Patrick.
On va y aller, ils s'affrontent des découvertes midi-pyrénéennes du printemps de Bourges. Qui se sont affrontées hier soir et qui s'affronteront également ce soir. Alors je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Il y a un jury local qui va aller repérer ces groupes. Ce sont souvent des gens à tête de salles de concert. Je pense à Patrick Combalbert, au Rio qui doit y participer.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. Parce qu'il fait partie du jury.
Et voilà. Et donc... Ces jurys régionaux vont mettre en avant plusieurs groupes sur différentes catégories qui seront présentés en vidéo ensuite à un jury du Printemps de Bourges. Donc les finalistes, il y a 8 groupes, 4 hier soir, 4 ce soir, qui s'affrontent. À partir de là, le jury du Printemps de Bourges va visionner l'ensemble des vidéos de ces 8 groupes et choisiront 1, 2 ou aucun groupe qui représentera Midi-Pyrénées. On peut dire, je pense, parce qu'il
y a de la qualité en Midi-Pyrénées.
Ouais, il y a de la qualité en Midi-Pyrénées, on a toujours eu des groupes assez régulièrement, parfois certains ont même remporté le printemps de Bourges. Là voilà, je vous dis très rapidement, vous les connaissez peut-être, il y a Strange Enquête, un duo de tchatch, de contrebasse, The Gabelt en catégorie rock, c'est du rock indé aux influences bulgares des années 60, alternatif et Britpop, il y a Dunce dans la catégorie pop, on a là des influences des années 70, psyché et disco punk, et puis le MP 1.2, les Avoronais du hip-hop, ça c'était hier soir, et puis ce soir ça affronte la seconde méthode en catégorie world.
Ils
ont des riffs entêtants, hypnotiques, tribaux, uniform motion en catégorie rock, un duo franco-anglais d'indie folk. Et puis il y a également Selenite en catégorie metal. Et on va se quitter avec Rufus Bellefleur. C'est de la fusion. Ça fait un petit peu penser, pour ceux qui aiment le hip-hop, Christophe va confirmer, à l'époque d'Aristide Development. Tu vas voir, ça sonne pareil.
J'aimais ça.
Allez, Rufus Bellefleur, qu'on a déjà reçu d'ailleurs sur CFM dans l'émission PCV. Et ce sera la fin de cette seconde demi-heure. On se retrouve dans quelques minutes.
À tout de suite. Rufus Bellefleur, que vous pouvez voir ce soir 20h au Bolégason de Castres dans le cadre de cette finale midi-pyrénéenne du printemps de Bourges.
Et si vous nous écoutez samedi midi, alors c'était hier soir et c'était rudement bien. Je suis sur le petit navet là, tu vois. Qu'est-ce que...
Un petit poil croquant.
Dans mon assiette, il y a navet, carotte, un petit bout de thym, un petit peu de céleri.
Romarin.
Ah oui, romarin, fenouil.
Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur dame. On est à l'hôtellerie du Vieux Corde, à Cordes-sur-Ciel, comme son nom l'indique.
Alors, il y a 3 étoiles hein, sur l'aventure de l'hôtel. C'est...
L'hôtel.
Non mais parce que c'est important. L'hôtel, je vais vous dire, monsieur Turiès, comme on a un partenariat, les auditeurs de CFM le savent bien, on fait gagner chaque semaine, ou tous les 15 jours, je ne sais plus, une nuit d'hôtel pour 2 personnes avec un repas, avec une visite d'un vignoble du Gaillacois.
Il y a du retour.
Et on n'arrête pas de recevoir des courriers ou des gens qui nous téléphonent pour nous dire « Waouh !» Merci. Alors c'est très plaisant parce qu'en fait ils nous remercient à nous. Donc je me fais quand même l'ambassadeur de tous ces merci ce soir, de tous ces auditeurs de CFM qui sont venus chez vous grâce à ce jeu mis en place dans notre partenariat et qui ont passé, nous disent-ils, nous écrivent-ils, vraiment des moments absolument magiques. Donc
Christophe nous racontera ça la semaine prochaine puisqu'il dort là.
Ah,
mais
oui.
Il a rien gagné.
Non mais Christophe
il paye.
Pascal Olivier est présent.
Oui, présent, chef.
Fabien Martinet, présent.
Salut tout le monde.
Christophe Bory.
Oui.
Tout va bien. Ouais. Patrick Perfect. Alfano remplace à lui tout seul en tant que coordinateur d'antenne de CFM Cordes.
Gaël.
Georges.
Et Patrick.
Et tout y va bien.
Mais il fait moins de bruit que Patrick.
Voilà.
Il râle moins, il parle mieux anglais que Georges. Et...
On pourrait le garder, non, peut-être.
Peut-être on pourrait le garder quand même.
Yves Turiès, Yannick Pouget, Aurélie Ballaran et Martine Okipenti sont avec nous autour de cette très belle, mais très belle et très bonne table.
Alors, qu'est-ce qu'on
Alors,
a dans l'assiette ?
S'il vous plaît, le chef Yannick Pouget, expliquez-nous ce que nous avons dans notre assiette.
Alors là, vous avez un carré d'agneau tarné.
Oh, il vient pas de Nouvelle-Zélande.
Non,
vous êtes sûr.
L'agneau est terrible.
Voilà, il est bien, bien tarné. L'agneau, on le prend bousqué viande. Je vais faire de la pub, mais c'est... Voilà, c'est de la super viande. Donc voilà, vous avez un carré d'agneau avec une croûte avec de la truffe.
Voilà. Blanche ou noire ?
Blanche.
Bon, je m'en vais.
Voilà.
C'est écrit sur la carte.
Voilà.
Ça est chaudé.
Faut pas lui refaire, hein. C'est bon.
Et alors, le secret de la cuisson de ces petits légumes pour que ça reste craquant, s'il vous plaît, chef Pouget ?
Eh bien, là, c'est d'une cuisson en vapeur. Et donc, cuisson, nous, on utilise une machine. Enfin,
ah oui, j'ai fait le tour des cuisines, moi, tout à l'heure.
On ira tout à l'heure. Moi, je vais
ah, mais ça y est, je l'ai fait.
Oui, mais
trop tard.
Toi, oui, mais...
Le Aubard, enfin, la marque, c'est Aubard. En fait, c'est un cuiseur vapeur à pression, à haute pression, en fait. Et donc, ça cuit les légumes vraiment...
C'est une cocotte minute, mais améliorée.
Améliorée, voilà. Pour les professionnels.
Et là, on a une cuisson quand même qui est bien, parce qu'on a vraiment le goût du légume.
Voilà, ça garde tout
avec
ce qui est...
Avec du craquant, du croquant.
Vitamines, et voilà. Donc, les légumes restent vraiment... ne s'écrasent pas, enfin, c'est une cuisson...
C'est du bonheur. À ce niveau-là, franchement, c'est du bonheur.
C'est quoi, lui ?
Ah, c'est le jus de, d'agneau en fait.
Le jus d'agneau.
Voilà,
avec
les os de l'agneau, on a fait le jus en fait. Voilà.
D'accord, avec les parures.
Voilà, les parures, tout ça, garniture aromatique, et on fait le jus avec ça en fait.
Le jus réduit qui est voilà. Qui mis dessus.
Voilà.
Santé. Ah, ça me va.
C'est un plat qui est vif un petit peu avec ces légumes qui sont craquants. Cette musique un peu vive s'accorde très bien avec.
Je viens vers vous après, Martine Okipenti. On va parler un petit peu de l'élaboration de votre magazine parce que vous avez un métier de rêve. Souvent,
ce
moi,
n'est pas mon magazine, c'est le magazine de Monsieur Turin.
Ah, souvent quand on parle au rédac chef, on dit c'est un peu comme le chef cuisinier.
C'est un peu mon bébé, mais c'est le magazine de Monsieur Turiès.
Alors,
voilà.
Vous allez nous parler du magazine de Monsieur Turiès.
Il est dressé là, hein, t'as vu.
Ah non, mais attention. Mais... Oh.
Il y a le patron à table là.
Ah non, mais j'ai quand même dit c'est mon bébé. C'est celle qui le soigne. Voilà, je suis la mère nourrice.
Je vous parlais des frères Tiefwartz tout à l'heure. Eh bien, j'ai encore plus de mal que tout à l'heure à le prononcer à l'allemande. Eh bien, c'est tiré d'une dernière compilation qui vient de sortir sur leur label Souvenir. Un excellent label donc, berlinois. Un excellent son aussi.
Martine Occhipenti, rédactrice en chef de Turies Magazine. Quel beau métier pour la rédaction d'un article, ou peut-être, j'espère, d'un dossier. Vous êtes allée manger dans le meilleur restaurant du monde, en Norvège ?
Au Danemark,
à Copenhague.
Oui. À Copenhague, parce que cette année, en fait, exceptionnellement, il y a la meilleure table du monde et le meilleur cuisinier du monde au Danemark. Chose qui risque de ne pas se reproduire avant très très longtemps, un petit peu comme M. Turies qui a eu ses deux titres de meilleur ouvrier de France la même année. Ouais. Alors la meilleure table du monde, c'est le Noma, qui est le chef est René Redzepi, et le meilleur chef du monde, qui a reçu donc le Bocuse d'Or, donc qui par cela même est le meilleur cuisinier du monde, c'est Rasmus, qui a le Géranium à Copenhague.
Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on mange des trucs un peu comme c'était la mode à une époque, là ? Moi, je vais voir
de ça. Non, c'est une...
Des trucs structurés en...
Absolument pas. Pourtant, René Redzepi a travaillé effectivement à Bully chez Ferran Adria, mais lui, sa philosophie, c'est le kilomètre zéro. C'est-à-dire qu'il n'utilise que des produits de son terroir et de son terroir le plus proche. Voilà, il n'utilise que des produits danois. Rasmus est un petit peu plus ouvert au monde extérieur, mais il favorise également. Il faut quand même savoir qu'actuellement, le kilomètre zéro, ce que les chefs appellent le kilomètre zéro, est de plus en plus, se propage de plus en plus, c'est-à-dire des chefs qui n'utilisent que des produits
que voilà.
De leur terroir et uniquement de leur terroir. Le circuit court.
Nous, c'est ce qu'on aime, hein, qu'est-ce qu'on déguste. Le circuit court.
Quoi, mais en avant, ouais, petit resto à Berlin où les salades viennent du toit, puisque le toit est transformé, a été végétalisé.
Tout à fait.
Le potager est sur le toit et toutes les salades et les herbes sont cultivées sur le toit.
Et alors quand vous partez là-bas, vous partez en reportage, vous avez votre photographe, vous faites des interviews, comment ça se passe
nous étions trois, notamment pour aller à Copenhague, il y avait Pascal, le photographe.
Pas moi.
Ricard.
Oh non, mais il faudra m'appeler la prochaine fois.
Nous n'avions pas un porteur de valise, c'est vrai. Mais nous avions aussi un interprète, Ricard Hult, qui est un chef d'Albi qui a l'épicurien. Et donc qui s'est occupé d'ailleurs de prendre les rendez-vous et tout, parce qu'on ne parle pas le danois, ni anglais. Donc,
ah bon
voilà.
Facile.
Est-ce que vous avez mangé à l'œil ?
Non, pas du tout.
Ah non. Vous avez un budget, bouffe.
Bien
le
sûr.
Chef ne vous invite pas.
Pas toujours.
Et alors, comment on en arrive à faire ce meilleur métier du monde, là ? Je suis intéressé, moi.
Est-ce qu'il faut coucher ?
Ah oui, j'allais le dire, mais je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a une formation vraiment liée à la cuisine ? Au contraire, pas du tout.
Enfin, si, normalement, il en faudrait une. Moi, je n'en ai pas, puisque j'ai fait des études de théologie, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec
ça. Effectivement.
Et donc, je suis rentrée dans le magazine en 1988 au numéro 2, puisque le numéro 1 venait de sortir, donc je suis dès l'origine.
Ah
mais
oui.
J'étais stagiaire, je suis entrée comme stagiaire, parce qu'un jour, je me suis rendu compte que la théologie, c'était passionnant, mais ça n'allait pas me faire vivre.
Ah, donc, Saint-Augustin et Maître Eckhart.
Voilà, c'est un petit peu la pauvreté quand même. Hein, donc, j'ai voulu un petit peu gagner ma vie, et donc j'ai suivi une formation, mais pas du tout de journalisme et de secrétariat. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Je suis rentrée au magazine chez M. Turies en tant que stagiaire après une année passée à l'école Pigier à Toulouse.
Mais j'ai l'impression qu'on reste chez vous, M. Turies.
Mais ça fait 23 ans.
On reste. C'est une philosophie
bien,
aussi, ça.
Si on s'y trouve bien, en tout cas, je découvre un peu son histoire. C'est vrai que je savais qu'elle était stagiaire, mais je croyais qu'elle avait peut-être eu un petit peu un précédent, alors que je vois qu'il n'y était pas.
Non, j'ai appris les religions.
Non, alors qu'elle s'est montrée très vite compétente et voilà tout. Donc elle a eu la progression assez rapide. La place a été libre et elle était en mesure de la prendre. Et bien sûr qu'elle a maintenant, depuis un certain temps, la responsabilité de rédaction.
Je suis rentrée comme stagiaire, ensuite j'étais secrétaire de rédaction et je suis rédactrice en chef depuis 1996. Mmh. Ayant remplacé Béatrice Balayé, qui elle a été la fondatrice du magazine Turies avec Monsieur Turies. Voilà, c'est quand même Béatrice qui a œuvré pour la création du magazine avec Monsieur Turies.
C'est une grosse équipe, Turies Magazine.
12 personnes, je crois. Oui, oui,
15.
12. 13. Allez, 13. Ouais.
12, allez, 15, 13. 14, on va dire.
Oh, 14. Ça dépend du cours de la bourse. Hein. En ce moment, c'est la crise, ils doivent être 13.
Non, mais voilà, c'est
un magasin. C'est un magasin. Les attendre le matin.
On a re-rempli les verres, ça tombe bien, on va pouvoir trinquer. Enfin, les verres se re-remplissent, pardon. Du coup, je me retourne vers Aurélie Ballaran, pardon. Donc, domaine d'Escosse, vous avez parlé de votre papa tout à l'heure, c'est lui qui mène la barque.
Donc, mon père, mes parents mènent la barque sur le domaine d'Escosse, qui est l'exploitation que mon père a repris en 1979. Et après, moi, je...
1979.
Non, parce que
c'était déjà au siècle dernier.
Non,
donc,
non.
Faut préciser. Avant
Jésus-Christ.
Et donc, moi, j'ai fait des études dans le VEM. Et en 2007...
moi aussi, mais...
Bah, ouais.
C'est sur le terrain, toi. Elle, dans les livres.
Moi, sur le terrain.
Donc, voilà. Et
donc, vous êtes œnologue.
Je suis œnologue. J'ai fait le diplôme d'œnologue sur Toulouse. Et en 2005, quand je suis sortie de l'école, je suis venue donner un petit coup de main à mes parents. Et ben, comme partout, on met la main dans l'engrenage et puis je suis restée. Ouais. Entre-temps, en 2007, on a eu une opportunité d'un achat de terre sur Cahuzac-sur-Vair. Et donc depuis 2007, je suis propriétaire de mon exploitation qui est le château L'Enclos des Roses.
Ah, c'est pas ce qu'on voit.
C'est
ça.
Pas ce qu'on voit. Donc là,
vous avez porté de ce que
non.
Vous faites.
Ce soir, je suis la fille de Monsieur Ballaran, propriétaire du domaine d'Escosse.
D'accord.
Après, si vous voulez, je peux changer de casquette et être la propriétaire du château
L'Enclos. On vous réinvitera.
Voilà l'occasion là, d'une autre émission.
Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'on pourra réinviter Madame Ballaran.
Est-ce que vos grands-parents étaient vignerons?
Mes grands-parents étaient vignerons, mais en même temps, mon grand-père était surtout éleveur. Lui, sa passion, c'était les vaches.
D'accord.
Et il avait les vignes à côté pour passer le temps.
Et consommation personnelle.
Pour se faire la consommation,
personnelle et consommation du voisinage. Et mon père, lui, est arrivé sur l'exploitation. Lui, il était vigneron et pas du tout éleveur. Donc, on a arrêté les vaches la veille de la crise de la vache folle. Hein. On a arrêté les vaches et pour ne se consacrer que à la vigne. Voilà.
Vous avez remarqué que c'est un travail d'équipe, quand même. Hein. Alors... on va voir dans quelques minutes le dessert. Et le dessert est important parce que il était l'objet d'un prix pour
déjà,
vous.
C'est le plat qui finit le repas. Et alors, c'est la dernière impression du repas, en principe.
Ouais.
Et si le dessert n'est pas réussi, bien on a un mauvais souvenir du repas. Alors que si déjà le dessert est réussi, bien en principe, on peut dire qu'on reste sur un bon souvenir.
Quoi. Alors, je le mets entre parenthèses, et en radio, on appelle ça du teasing, c'est pour mettre un peu l'eau à la bouche aux auditeurs. Et on va en parler juste après cette chronique de Fabien, qui a eu l'idée de nous présenter ce livre en venant ici, parce qu'il s'est perdu en venant jusqu'à Corfu.
Il est venu à pied, non pas. Le livre, je l'ai prévu avant, et vu le trajet que j'ai suivi, je me suis perdu dans la forêt.
Entre Penn et Vaour.
Entre Penn et Vaour, en pleine forêt paumée. Je me suis dit, ah, si je tombe en panne, je reste. Et après, je suis monté jusqu'au restaurant, en passant par les petites ruelles. Et je me disais, je vais me faire attaquer par les loups. Enfin, c'était terrible. Donc le bouquin
de
s'appelle...
De nuit, il est arrivé de nuit, monsieur dame, c'est pour ça.
Le bouquin s'appelle « Le guide de survie en territoire zombie ». Donc si le titre ne suffit pas pour vous donner l'ambiance, il faut savoir que c'est écrit par Max Brooks, le fils de Mel Brooks. Donc ils ne sont pas quand même réputés pour leur sérieux et leur attitude coincée. Et ça sort au livre de poche. Donc oubliez les cadeaux de Noël ringards et hors de prix. Parce qu'on se demande ce que va faire votre fils ou votre petit ami avec sa console, sa manette de console PS3 quand les gémissements des premiers zombies vont surgir à votre porte et vont vous signaler que la fin est proche. Vous ne repousserez pas non plus une horde de morts vivants affamés avec un parfum, même s'il habillait très bien Marilyn Monroe. Donc vous prenez vos régimes au sérieux pour les articles de magazines de mode. Vous ne partez pas dans un nouveau pays sans avoir lu le routard qui correspond. Alors pourquoi ne pas traiter votre survie de la même façon? Et tout le guide est là-dessus. En gros, les zombies sont à nos portes. Les premières attaques zombies ont eu lieu il y a 6000 ans avant Jésus-Christ, les gouvernements nous le cachent, il y a régulièrement des attaques, personne ne veut vous en parler, comment survivre? Et donc le bouquin se divise en deux parties. La première partie, c'est vraiment un guide, comme un guide de cuisine, comme un guide du routeur, c'est avec des vrais conseils, comment on s'arme, comment on se prépare, comment on peut se barricader, comment on peut fuir, comment on peut contre-attaquer après.
Est-ce qu'il y a comment on peut parler zombies?
Non, non, bah, les zombies ne parlent pas, mais pareil, il y a le d'où viennent les zombies, qu'est-ce qu'ils ont.
Qu'est-ce qu'ils mangent? Que mangent les zombies?
Des humains, enfin tous les êtres vivants, mais de préférence la chair humaine. Et la deuxième partie raconte toutes les attaques zombies qu'on nous a cachées depuis donc, les fins fonds de l'histoire et qui ont pu se produire dans tous les pays du monde à différentes échelles. Donc le bouquin est complètement barré parce que c'est vraiment écrit comme si l'auteur y croyait. Il cite des articles de journaux comme s'ils existaient. Vous pouvez vérifier les sources, c'est faux. Mais c'est vraiment écrit comme ça, donc c'est extrêmement drôle. Beaucoup d'humour en plus, de petites piques sur les gouvernements, sur les impôts, sur la police... Donc vraiment à lire et un très beau cadeau. Le livre de poche a fait un coffret pour Noël qui contient le bouquin plus une fiche à remplir pour est-ce que vous avez votre fusil à pompe, vos 50 cartouches, votre groupe électrogène, enfin vraiment tout ce qu'il y a dans le bouquin. C'est un très beau cadeau pour Noël pour une dizaine d'euros. Donc il y a, voilà, et c'est un bonbon moment de plaisir. Donc
ça s'appelle
Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks aux éditions Le Livre de Poche.
Qu'est-ce qu'on déguste? Vous venez de prendre cette émission en route. Ah, dommage, vous avez raté le meilleur. Mais enfin, il vous reste demain la rediffusion et peut-être aussi le podcast sur cfmradio.fr ou sur qu'est-ce-qu'on-déguste.com. Nous sommes à l'hôtellerie du Vieux-Corde en compagnie d'Yves Turiez, de son chef Yannick Pouget, de sa rédactrice en chef Martine Occhipinti, parce qu'il y a le magazine, on en a parlé, Turiez Magazine. On est avec Aurélie Ballaran du domaine d'Escos. C'est le vin qu'on boit ce soir et je peux vous dire qu'il accompagne admirablement les mets qui nous sont servis par une équipe aux petits oignons. C'est
on n'est pas habitué à ça. Nous.
Pascal, j'aimerais que tu dises à Georges, à Gaël, à Patrick, qui sont les chroniqueurs manquants de cette émission.
On ne leur dira
rien. Qu'on ne leur dira plus rien.
Tant pis pour eux.
On ne leur dira,
plus rien. Ils verront les photos, ça suffit.
Par contre, voilà. il va falloir revoir quand on fait les émissions au studio pour essayer de garder un peu quand même.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait avoir des gens qui nous servent comme ça?
Voilà, ça serait fini la pizza du Babylone.
Ouais, alors ça.
On n'en veut plus.
Donc on est admirablement bien servi. On déguste des choses étonnantes, magnifiques. Et on va finir, bien sûr, par le dessert. Vous allez nous en parler tout à l'heure, Yves Turiez, quand il arrivera. Mais puisqu'on a un petit peu de temps. On m'a remis là les apologues d'Yves Turiez, historiettes, fables, contes et récits.
Les apologues, pas que.
Les apologues.
Gueux.
Oui. Je prononce
mal. J'ai entendu
mal. Que. Ouais, oui, bon, tu entends ce que tu veux, mon bon ami.
Ouais, on devient sourdingue avec l'âge.
Et donc il y a voilà, des histoires, des historiettes, avec, à la manière des fables de La Fontaine, toujours, eh bien des... Comment on dit à la fin des fables de La Fontaine, Pascal? Oui, des petites morales. Moral, merci Martine. Non mais heureusement que Martine est là. Mais oui, mais parce que toi, tu es
chef.
On ne peut rien faire pour toi.
Moi, je suis bénévole.
Alors, vous êtes aussi, vous écrivez des contes aussi, Yves Turiez.
Et rien à voir avec la cuisine d'ailleurs.
Rien à voir avec la cuisine, non. Non, au départ, c'était des poèmes compagnoniques que j'écrivais. Bon, c'était ça. Je l'appelais comme ça tout au moins. Et puis j'ai découvert par la suite que ça s'appelait des apologues. Voilà, faut être logique. Et je m'aperçois que c'est très peu connu. Bien sûr, le dictionnaire dit court récit en prose ou en vers, souvent écrit de format allégorique et comportant une moralité, une conclusion, une moralité. Voilà, bien sûr, et ça, j'en ai écrit depuis longtemps et j'ai voulu terminer, compléter un livre, là, donc je suis là, qui sort avec une cinquantaine et que je sors au profit des Restos du Cœur.
Alors, au profit...
Donc, à partir de maintenant, on le retrouve dans la semaine prochaine dans toutes les librairies de France. Il y en a 5 000 qui sont partis ce soir et qui vont un petit peu approvisionner toutes les librairies, grandes librairies ou les librairies de France.
Et c'est important parce que les Restos du Cœur, là, ça, c'est la campagne ouvre maintenant. Vous permettez que j'en lise un au hasard, je plonge au hasard parce que l'ouvrier, le mendiant.
Eh bien, allez-y.
Vous va?
Vous voulez que je vous le compte, moi, celui-là?
Ah,
allez!
S'il vous plaît, Yves Turiez.
Ah ben, je vais vous le donner.
L'ouvrier et le mendiant. Je vous en prie.
Un jour, sur un chemin, un jeune mendiant, la main tendue, demandait une aumône. Passait là un ouvrier. Lui donner un écu, c'eût été éphémère, en repoussant pour lui la misère à deux mains. « Je n'ai rien, lui dit-il, sinon un beau métier. Mais si ça t'intéresse, je veux bien toutefois t'en donner le secret. » Sans trop savoir pourquoi, le mendiant accepta. Au labeur, il se mit, et sans faire relâche, le métier il apprit. Quelques années plus tard, l'ouvrier revit cet homme. Il s'était enrichi et il était heureux. « Je suis riche à présent, lui dit-il, mais ma grande fortune est d'avoir un métier. » L'ouvrier a bien agi en gardant son écu. Mieux valait enseigner que de donner le monde.
Quel âge avez-vous, Yves Turiès? On le demande pas aux femmes, mais à vous, je peux vous le demander.
72.
72.
12.
Ouais. Bravo. S'il
il
vous plaît.
Fait, il en fait non, mais, 50 de moins.
Mais, non, mais pas que 50. Vous en faites 15 ans de moins. Remplissez mon verre, que je lève mon verre au Tarné, indulgent, s'il vous plaît. Ah, ah si, 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 attends, regarde. Tu vas voir.
Allez, hop.
Je le remplis moi-même, parce que il m'en reste, devant moi, des vignes blanches.
Quel âge a le magazine, monsieur Turiès?
Comment?
Le magazine a quel âge? 23 ans.
Il a...
En 88.
88, 23, ouais, 23.
23 ans.
Qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait courir encore aujourd'hui?
Je ne sais rien. J'ai pas envie de courir, parfois, vous savez.
Et quel talent vous nous cachez encore?
Non, c'est vrai que j'ai arrangé un petit atelier pas loin de chez moi, là-bas derrière. Et je pensais me mettre à faire un petit peu, là, maintenant que j'ai un peu de temps quand même, un peu plus qu'à certaines époques, peindre ou surtout des collages. Je veux me faire un style de tableau par des moitié collage, moitié peinture. Et puis finalement, comme j'avais cette idée aussi de d'écrire mes apologues, et je m'y suis mis à faire ça et ça m'a passionné. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas encore déplié mon chevalet et je me suis mis à faire ça. Ça fait quelques mois, 5-6 mois que j'y suis dessus.
Alors, vous avez la vie devant vous pour faire ça?
J'ai la vie, oui, bien sûr. Et attendez, bon, j'ai hélas perdu mon père il y a peu de temps, mais il avait 102 ans. Alors voyez,
j'ai encore beaucoup de temps.
Alors ça y est, et le blanc est servi. Levons nos verres au Tarné.
Tarné l'indulgent.
Tarné.
Et voilà, on est en train de nous servir. Juste une petite seconde, vas-y, remonte un peu là. Yves Turiès, qu'est-ce que c'est qu'on est en train de nous servir, s'il vous plaît?
Là, on vous sert un gratin de fraises ou de framboises, le chef me dira quoi. Et framboise, un gratin de framboise au coulis d'abricot. C'est un des desserts qui sont, je suis content qu'il ait fait celui-là, je ne le savais pas, mais c'est un dessert qui est à l'image d'Yves Turiès et qui m'a valu, que j'ai fait d'ailleurs, pour mon concours de meilleur boulet de France. Et c'est une création, bien sûr. Et ce dessert, il se fait actuellement un peu partout, par le monde. Je le retrouve dans tous les pays du monde où je vais. Les chefs français, ils me font ce dessert-là. Et c'est un dessert. C'est ni plus ni moins qu'une certaine façon d'un soufflé, mais un petit peu spécial, avec au milieu des fraises des bois ou des framboises. Donc celui-là est à la framboise et un coulis d'abricot autour. Voilà. C'est un dessert intéressant, facile à faire quand on est en cuisine.
Vous confirmez
une sorte de chibos. Ouais.
Est-ce qu'il est aussi bien que ce que vous le, de la façon dont vous le feriez vous?
Ah, il faut goûter. Il faut goûter.
Mais à l'œil, là. À l'œil.
Oui.
Ça sent bon.
D'abord, il y a l'œil. Quand on déguste, d'abord, il y a l'œil.
L'œil, l'odeur.
L'odeur vous attrape. Ça sent bon. Hein? C'est caramélisé, là. Il y a. Hein? Et puis. Moi j'ai un soleil dans mon assiette. Voilà. J'ai un soleil avec un petit peu de neige dessus, ça nous prépare quand même à décembre là. Ça y est, on y est. Hein.
Mais c'est très bon.
Ah, j'ai pas encore goûté. Oh, bravo, il y en a plus dans l'assiette à Martine direct. Tout. Ah, il nous reste un tout petit peu. Mais non, mais tout va bien. Il nous reste un peu de temps, mais justement, pour déguster ce dessert, c'est normal. On arrive au bout de cette émission. 60
12, vous avez dit ?
Oui.
Et après ?
Et après quoi ?
À vous de me dire.
Mais non, je pense déjà que vous allez voir qu'avec celui-là, il y a un deuxième volume qui va venir. Donc, je suis... En principe, il va y avoir un deuxième volume, oui. Donc,
une suite aux apologues d'Ifturiès.
Le thème de ce
Jean
livre-là...
Il y avait Jean de La Fontaine, il y aura
Ifturiès. Le thème de ce livre-là, c'est Ode au travail et aux vertus de l'homme. Et le deuxième sera Les petits riens et leur grande importance. Voilà, c'est le thème du deuxième. Et le troisième, ce sera... Les grandes histoires.
Les grandes histoires.
Les grands événements de l'histoire de France.
On arrive au terme de cette émission. D'habitude, rapidement, on essaye de faire une sorte de questionnaire gourmand. Alors, il va y avoir qu'une seule question qu'on va poser à tous nos invités qui nous ont invités aujourd'hui. Puisque dans cette émission, d'habitude, c'est nous qui invitons dans nos studios, mais aujourd'hui, nous avons été vos invités. La seule question.
On s'invite un peu aussi.
Et on s'invite un peu. La dernière fois que vous avez vraiment cuisiné vous-même derrière un fourneau.
Pour séduire.
Pour séduire. C'était quand et c'était quoi ? Enfin, c'était surtout quoi ?
Alors, si vous me parlez pour séduire, il y a certainement longtemps. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps, bien sûr, de faire. Mais c'est ponctuel, un plat. Non, je préfère participer à la création d'une recette par. La mettre au point, et puis après, bon, c'est vrai qu'il y a quand même un certain temps que j'ai des équipes qui travaillent pour moi. Donc, je peux dire qu'il y a une bonne dizaine d'années que j'ai. J'ai encore.
Mais même pour vous, je veux dire, un œuf au plat.
Mon plat préféré.
Un œuf au plat. Une boîte.
Ah,
un hot dog.
Mon plat préféré, c'est le civet de langouste.
Carrément.
Le civet de langouste, oui.
À Corbe, c'est facile à les pêcher. En marée basse, on va toper des langoustes.
Dans le Chéroux.
Je crois que c'est le plat que j'ai. Et puis, c'est un. Oui, je l'ai refait par la suite, mais c'est un plat qui m'a tellement marqué.
Que vous avez mangé où, monsieur Turiès ?
À Bagnouls.
Ah,
et Martine, vous, la dernière Bagnouls, fois que vous avez cuisiné pour séduire ? Vous qui allez manger dans les meilleurs restaurants du monde ?
Très longtemps. Non,
Martine, on cuisine pour la séduire.
Alors ? Ah, si on cuisine pour la séduire, ça doit être dur.
Non, moi, quand je cherche à séduire, ce sont mes enfants. Et j'aime bien effectivement leur faire plaisir, mais je fais toujours une cuisine très familiale, très simple.
Des lentilles.
Voilà, des lentilles.
Mais c'est bon aussi.
Des daubes, des pot-au-feu.
Trucs mijotés.
Voilà.
Mijotés, j'aime beaucoup les plats mijotés.
C'est-à-dire que pour son travail, elle est toujours dans des grands étoilés. Alors, je comprends que quand elle est chez elle, elle préfère
de la simplicité, quoi.
Et notre chef.
Attends, je finis par le chef, si tu veux bien. Aurélie Balaran.
Mon dernier plat, comme madame, pour les enfants, donc ma fille, des moelleux au chocolat.
C'est bon. Et vous les finissez au micro-ondes ?
Non.
Le gâteau à la mode.
Moi, quand je le fais, je finis au micro-ondes.
Pour initier une petite de 2 ans et demi au chocolat, c'est simple, ça passe bien et ça se finit tout seul.
Et vous, Yannick Pouget ?
Moi, c'est tous les jours que je cuisine. c'est surtout pour faire plaisir aux clients. Voilà.
Et votre si femme, je sais pas, un œuf au plat, tu le fais ?
Oui, oui. Après, le client est roi. Donc,
il va y rajouter des cèpes, une petite bouillade d'œuf au cèpe ou au truffe.
Quelques truffes, voilà.
Hein ?
Ouais.
Voilà.
Et ton plat fétiche ?
Moi, j'aime bien travailler le foie gras. Tout ce qui est, le canard, quoi, le magret. Voilà.
Ah, et on nous sert le croquant cordel.
Le croquant cordel,
ouais.
Croquant.
Et ben voilà.
Boule de vis.
Ainsi, messieurs, dames, comment s'appelle ce plat, pardon ?
C'est le gratin de framboise.
Le gratin de framboise, c'est sur le gratin de framboise qu'on
avec
vous quitte,
croquants.
Messieurs, dames, avec des croquants. Ah ben alors en plus, j'ai pas encore eu les croquants de corps.
Et la muscaline aussi, de Yves Turiès.
Bon, on va vous laisser.
Voilà.
Hein.
Eh ben voilà, excusez-nous, mais on a du travail
à
finir.
Boulot,
et il va falloir qu'on en ramène à la maison. Vous avez vu le boulot que c'est ? Allez, merci beaucoup.
Je pense qu'on peut applaudir parce que vraiment.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste depuis l'hôtellerie du Vieux Corde avec Yves Turiès, Yannick Pouget, Martine Occhipinti, Aurélie Balaran. Merci à toutes et à tous. Merci à Aurélien d'avoir assuré la technique de cette émission. À tous ceux qui sont venus participer, donner de leur sueur pour que cette émission puisse avoir lieu. Pascal Olivier, Christophe Boris, Fabien Martinet.
Patrick Alfano. Merci et à la semaine prochaine. Et merci à toute l'équipe. Hein. Vraiment, vous avez été super pour nous servir, les gars. Bravo.
Merci beaucoup.
Bravo. Et là, on n'en a pas parlé. Mais on vous réinvitera pour parler de ce petit blanc-là. Hein.